Vous êtes à l'écoute de Choc FM 105.1, la radio 100% Toronto, 100% francophone. Ici Guillaume Laurin sur les ondes. J'ai le grand plaisir de rejoindre au téléphone la flûtiste Claire Guimond, invitée spéciale de l'émission avec le professeur Norman Cornette. Bonjour à vous, bonjour Madame Guimond, bonjour professeur Cornette.
Bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation sur les ondes de Choc FM.
Alors, c'est un grand plaisir et un grand honneur de vous avoir sur les ondes de Choc FM pour nous parler musique classique, musique ancienne. Claire Guimond, eh bien, est une figure de proue de la musique au Canada, une flûtiste de renom qui se produit un petit peu partout de ce côté-ci de l'Atlantique, mais également un petit peu partout dans le monde. Elle a joué avec les plus prestigieux musiciens. Pour nous en parler et pour poser ses questions, le professeur Norman Cornette. Professeur, je vous invite à entrer dans le dialogue avec Madame Guimond.
Mais volontiers. En fait, pour moi, c'est renouer avec la musique baroque grâce à l'orchestre baroque Arion qui vient de réaliser une série de concerts. J'ai eu le privilège d'y assister dimanche dernier. Et ce qui nous a ramené ensemble, en quelque sorte, la musique baroque et moi, c'est le nouvel album d'Arion qui s'intitule Rebelle baroque. Et justement, à la fin de cette entrevue, l'auditoire de Choc FM aura l'occasion d'entendre un extrait. Pour toute information, ils peuvent s'informer sur le site web www.arionbaroque.com. Or, quand j'étais au concert justement et à l'écoute de cet album, je me suis posé une question. Quels sont les rapports entre l'esthétique et la technique, voire la technologie dans la musique baroque? Vous savez, pendant la période classique grecque, le mot techné voulait dire à la fois technique, technologie et art. Or, par la suite, au fur et à mesure que le temps passait, on a fait une séparation entre l'esthétique et la technologie. Mmh. Or, ce qui me frappe maintenant, en tant que critique d'art également, surtout à travers les arts numériques, c'est de nouveau une synthèse de l'esthétique et de la technique et de la technologie. Et quand j'écoutais cet album Rebelle baroque, je me suis dit, mais voilà qu'on joue sur les instruments originaux de l'époque, mais grâce à la technologie moderne, on peut apprécier à leur juste valeur la sonorité, les propriétés sonores de ces instruments originaux. Donc, j'invite justement Mademoiselle Guimond à nous parler en tant que flûtiste de quels sont les rapports entre musique baroque et la technologie moderne, surtout en ce qui concerne l'enregistrement rebelle baroque.
C'est une question fort intéressante et on pourrait passer, je pense, beaucoup de temps parce que je vois toutes sortes de directions où on pourrait en fait explorer. C'est sûr que nous faisons cette musique, donc musique baroque sur instrument d'époque, toujours dans l'idée de se rapprocher tout d'abord de l'âme créatrice du compositeur, donc dans l'essence en fait de ce qui a été, non pas d'essayer de reproduire quelque chose comme dans un sens muséal, mais plutôt de revivre avec l'essence même. Donc on prend des instruments d'époque et on joue cette musique, et avec ces instruments, finalement, ça nous rapproche de l'esprit créatif ou créateur du compositeur. Parce qu'il y avait une grande place aussi, vous savez, pour l'interprète dans cette musique à l'époque. Donc, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve, en fait, c'est une façon de parler le texte de cette musique, de lui donner ses couleurs originales. Alors ça, c'est... Donc, il y a quelque chose quand même qui se passe. Nous sommes au 21e siècle. Hein? On a le cœur peut-être qui bat un peu plus vite. On a finalement l'environnement extérieur qui est peut-être un peu différent, un rythme un peu différent des choses, mais quand même, en reprenant ces instruments et en allant vers, en fait, se rapprocher de l'esprit créateur, on croit pouvoir, en fait, rendre cette musique extrêmement actuelle. Bon, maintenant avec la technologie, le grand avantage qu'on a maintenant aujourd'hui de pouvoir graver, hein, de pouvoir graver dans une mémoire, c'est de prendre... En fait, quand on fait un enregistrement comme Rebelle Baroque, c'est un peu comme prendre une photo, hein, mais vivante et interactive de ce qui se passe. Alors donc, ça nous permet, vous savez, quand on est en concert et on prend des risques et tout, dans le concert, il y a quelque chose, c'est sûr, de quelque chose de magique, hein, qui se passe. Il y a une espèce d'énergie, voilà. Mais par contre, il peut arriver en concert qu'il y a une petite note qu'on échappe ou un petit truc qui se passe parce puisqu'on prend les risques. Alors, donc, mais par contre, dans les enregistrements sonores, on veut entendre ce même risque, mais vous savez, si on échappait une petite note à droite et à gauche et qu'on réentend cette petite note échappée une fois, à chaque fois qu'on écoute le disque, ce serait peut-être agaçant. Alors, quand on travaille, quand on prépare un enregistrement comme ça, l'orchestre a déjà vraiment tout fait le travail en amont, a travaillé, a répété, a donné en concert, a vécu en fait cette expérience riche du concert. Et ensuite, on prend 3 jours pour enregistrer. Alors, ce qui nous permet en fait de vraiment jouer avec le même élan et de prendre les mêmes risques sur scène, mais évidemment, aujourd'hui, avec la technologie, ça nous permet aussi de peaufiner. En fait, s'il y a un petit morceau qui échappe, une petite note qui s'échappe, bien, on peut reprendre et aller en fait réparer. Donc, la technologie aujourd'hui nous permet de s'approcher d'une certaine perfection, à la fois en même temps qu'on peut quand même vivre, sentir l'énergie du moment aussi. Je ne sais pas si ça répond en partie à votre question. L'autre chose aussi, vous savez, on est passé du disque, maintenant le CD, et on est à l'âge numérique. Alors, justement, vous me demandiez d'entendre un extrait sonore du disque. On a été capable, dans l'espace de quelques secondes, de vous d'envoyer par courriel à Toronto un extrait du disque en format numérique avec une en fait, avec la sonorité, la qualité sonore quand même assez exceptionnelle.
Et ça m'intéresse d'autant plus que la musique, d'ailleurs l'extrait qu'on va entendre par Joachim Quantz, qui est né en 1697, qui meurt en 1773. Rappelons à ceux et celles qui sont à l'écoute de Choc FM qu'on est dans l'âge des Lumières, l'âge de la raison.
Oui.
Et justement, il y a, c'était une musique de cours. D'ailleurs, Quantz était le professeur de flûte pour nul autre que le roi prusse Frédéric II. Et je tiens aussi à dire que dans le cas de ce compositeur, il s'agit d'un intellectuel, d'une rigueur intellectuelle, puisque c'est lui qui a composé un essai important sur la flûte traversière. Mais ce que je vois comme le grand avantage de la technologie moderne, c'est justement, c'est une musique pour un cercle fermé, pour l'élite de l'Europe.
Oui.
Alors que là, maintenant, grâce à de tels enregistrements rebelles baroques, on peut populariser, surtout on peut démocratiser la musique baroque et en assurer ainsi sa diffusion.
Vous avez tellement raison. En fait, c'est ce qui nous permet d'avoir cette musique accessible à tous aujourd'hui. C'est extraordinaire l'explosion, en fait, on parle de l'enregistrement, mais du numérique aujourd'hui, et bien, peut-être pour le malheur, en fait, des disques, un peu, on sent que l'industrie du disque, c'est un peu difficile, mais quand même, la musique, elle est diffusée partout, elle est accessible à tous, et c'est quand même extraordinaire, hein, d'avoir cette musique. D'ailleurs, j'aimerais ajouter quelque chose à Quantz. En fait, vous avez extrêmement bien décrit ce personnage qui a écrit ce traité pour la flûte très, très important qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui. Et à son époque, quand même, ce traité avait été traduit dans vraiment plusieurs langues. Alors, on retrouve aujourd'hui des facsimilés en allemand, bien sûr, puisque c'est, ça a été écrit en allemand, mais aussi en français, il y en a en italien. Alors, donc, ça a été, à son époque, même diffusé par l'édition, cet essai, en fait.
Et je tiens à rassurer à l'auditoire de Choc FM, quand on parle de l'âge des Lumières, l'âge de la raison, d'un cercle d'élite, des intellectuels, eh bien, l'envers de la médaille, c'est que la musique baroque, ironiquement, est une des musiques les plus accessibles. On est loin, et combien loin, de la musique de Wagner, ou de son disciple Bruckner, où un seul mouvement peut s'étirer languissant, lentement, pendant 20 minutes. Alors... Or, ce qui me fascine dans la musique baroque, d'ailleurs, on va l'entendre dans l'extrait tout à l'heure, le Allegro di molto, qui ne dure que 6 minutes 3 secondes. Eh bien, pour moi, la musique baroque est comme la poésie. C'est une économie de moyens. C'est dire le maximum avec le minimum. D'ailleurs, chaque mouvement est plutôt court et très accessible. Et surtout, ce qui ressort de cet album Rebelle Baroque, c'est justement ce que moi j'appelle une tension dialectique dans la musique baroque. Il y a un tel dynamisme que vraiment... ça nous vivifie.
Alors justement... J'ajouterais peut-être à cela, en fait, que c'est une musique à l'échelle humaine, je trouve. Souvent, on pense à la musique... C'est une belle porte d'entrée dans la musique classique aussi, parce que vous le dites très bien, c'est une musique extrêmement accessible. Et c'est ça, je pense que c'est l'échelle humaine qui peut toucher tout le monde.
Alors, Claire Guimond, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire tous les deux. On a parlé de démocratisation de la musique baroque, je lis un petit peu partout qu'il y a un regain d'intérêt pour cette musique qui, comme vous l'avez si bien expliqué, était avant tout une musique de cour et qui aujourd'hui est beaucoup plus diffusée et intéresse de nouvelles générations. Est-ce que vous, en tant que membre fondatrice de l'orchestre baroque Arion depuis, je crois, le début des années 80, vous avez ressenti cet engouement nouveau, ce renouvellement de la musique baroque?
Absolument, absolument. Et ça, on le voit bon, d'abord aussi par le public, bien sûr, et on le voit aussi par la relève. Je dois vous avouer qu'il y a une trentaine d'années, hein, déjà, lorsque j'ai fondé Arion, ici à Montréal, il y avait très peu de musique ancienne sur instruments d'époque. On avait le studio de musique ancienne, qui était un ensemble, en fait, qui était beaucoup axé sur l'art vocal. Et oui. C'était tout. Et aujourd'hui, Montréal, je pense, c'est aussi une plaque tournante importante en Amérique du Nord pour la musique ancienne. Il y a plusieurs ensembles, en fait, de musique ancienne, comme chez vous à Toronto, et également, évidemment, il y a Tafel Musique, et il y a d'autres ensembles. En fait, je pense que le paysage culturel a beaucoup changé à ce niveau-là. On voit que il y en a davantage, beaucoup plus. Et chez les élèves aussi, dans les conservatoires, il y a 35 ans, 36 ans, on ne pouvait pas étudier la musique baroque ici. Très peu, en fait. Il y avait des professeurs de clavecin, bien sûr, mais ça s'arrêtait là. Si on voulait étudier la flûte baroque, le violon baroque, il fallait s'exporter. Alors, aujourd'hui, en Amérique du Nord, partout, on peut aller étudier ces instruments-là également. Donc, on peut le constater, bien sûr.
Alors, sans entrer dans le détail de la théorie musicale, vous, en tant qu'interprète flûtiste, est-ce que vous considérez que la musique baroque est une musique, dans la musique classique, est-ce que c'est une musique plus complexe ou plus difficile à jouer, à interpréter, ou est-ce que, au contraire, son accessibilité dont on a parlé en fait également une musique que l'on peut apprendre à pratiquer peut-être chez soi?
Oui, en fait, vous savez, c'est une musique, enfin, il y a toutes sortes de niveaux, hein, bien sûr, il y a toutes sortes de compositions plus ou moins faciles ou bien difficiles, mais souvent, très souvent, quand même, c'est la porte d'entrée dans la musique classique. Il y a des sonates de Handel. Quand on commence à travailler un instrument, le violon, la flûte, on apprend les sonates de Handel, parce que c'est pas très difficile, nécessairement, techniquement, de le faire, en fait, de l'aborder. Mais maintenant, pour bien faire cette musique, là, c'est peut-être autre chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme la flûte à bec, vous savez, qu'on enseignait dans les écoles. La flûte à bec, on peut la mettre dans sa bouche et souffler. Déjà tout de suite, après 5 minutes, on peut faire quelque chose. Hein, on peut jouer, je vous dirais, je maman. Maintenant, pour bien jouer la flûte à bec, c'est autre chose quand même. Il faut connaître l'esthétique, il faut connaître vraiment le contrôle du souffle, etc., etc. On peut en jouer d'une façon extrêmement virtuose également. Donc, c'est une musique, je vous dirais, qui est quand même, qui peut être assez facile d'accès à l'écoute et même à l'approche, mais ça dépend, bien sûr, à quel niveau on veut jouer cette musique.
Et pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas véritablement la musique baroque, et en particulier l'instrument de la flûte dans la musique baroque, c'est une question que j'avais posée à Monsieur Onofri, d'ailleurs, quelle serait peut-être commencer pour s'initier à la musique, à la flûte dans la musique baroque?
Écoutez, à la flûte. En fait, c'est un peu comme un menu. Hein. Qu'est-ce qu'on va choisir dans le menu? Est-ce qu'on préfère les entrées? Est-ce qu'on préfère un plat principal? Est-ce qu'on est en été? Est-ce qu'on est en hiver? Je pense qu'il y a un tel choix et ça dépend un peu du goût. Écoutez, certainement, je pense aux fantaisies pour flûte seule de Telemann, qui sont des petits bijoux de flûte. On peut être sur un voile ou à la campagne devant un lac et on a envie de se faire voyager, de voyager dans le temps, alors ça nous fait rêver. On peut entendre, bien sûr, peut-être des compositions un peu plus complexes et bien sûr les sonates de Bach. On peut entendre les concertos de Vivaldi si on a envie d'avoir un peu de sang italien et d'entendre en fait l'espèce de non, ou encore concerto de Leclerc, de Carl-Philippe Emmanuel Bach. Donc, écoutez, je pense que toutes ces œuvres demeurent accessibles et faciles. Et là, c'est question de goût, en fait.
Et je crois qu'il est aussi très intéressant. La flûte est un instrument à part. Croyez-le ou non, monsieur Lorrain, la Bible se voyait dans l'obligation d'expliquer l'origine de la flûte. On la retrouve d'ailleurs dans le premier livre des Écritures hébraïques, la Genèse.
Eh oui.
De plus, en mythologie grecque, le dieu Pan, pour expliquer l'origine, la genèse de la flûte. Et pour cause, dans l'Antiquité, le mot pour l'air et le mot pour le souffle et le mot pour l'esprit, c'est le mot pneumatos, d'où en français pneu. Oui. Donc il y a cette idée que c'est un souffle divin. Et en mythologie grecque et dans la Bible, il y a quelque chose, il y a comme des origines divines de cet instrument.
C'est beau, en fait, ça m'inspire. Mais vous savez que le souffle, en fait, la flûte, elle est très, très proche aussi de la voix humaine. C'est très, très proche et comme le dit le professeur, ça vient du souffle. C'est très proche du corps aussi. C'est très proche de l'esprit. Alors,
Le souffle
c'est beau,
divin.
Vous savez qu'on aime la flûte.
Le souffle divin de la flûte, ça fait rêver. Eh bien, si vous voulez bien, on va écouter cet extrait dont on a parlé en préambule, extrait d'un concerto pour flûte, corde et basse continue en ré majeur de Juan Joaquim Quantz, si je ne me trompe pas. Claire Guimond, professeur Cornette, un grand merci de nous avoir accordé cette entrevue sur les ondes de Choc FM 105.1.
C'est un grand plaisir, je vous remercie beaucoup.
Et avec plaisir, on Encore une fois, on peut consulter le www.arionbaroque.com et l'extrait qu'on va entendre provient du nouvel album Rebelle Baroque.
Alors procurez-vous ce nouvel album Rebelle Baroque, partout où on trouve de la bonne musique. Un grand merci à vous et nous on reste sur Choc FM 105.1.
Thank you.